Bonjour. Nous étions en train de réfléchir au paradoxe de l'amour, car la définition la plus forte, la plus belle de l'amour, suppose que l'amour subsiste quand ce que nous appelons ainsi de son nom semble disparaître. Autrement dit, l'amour est plus fort que la perte du sentiment d'aimer. Paradoxe, hein ? Et vous vous souvenez, la semaine dernière, comment j'avais essayé d'explorer ce paradoxe, qui est le paradoxe même de l'amour dans sa plus grande dimension humaine, et qui est aussi le paradoxe de la révélation de l'amour qui vient de Dieu. On peut le résumer d'une formule que le pape emploie avec force et avec insistance dans sa lettre aux familles, à laquelle je vous renvoie avec insistance. L'amour, c'est le don désintéressé de soi-même à autrui. Et je terminais la semaine dernière en réfléchissant à ce pauvre amour de l'apôtre Saint-Pierre qui passe par l'abandon et la trahison du Seigneur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, en lui pardonnant, lui rend sa capacité d'aimer, lui rend l'audace d'aimer. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Peut-on appliquer cela ? Comment peut-on comprendre cela et comment peut-on le comprendre quand on se place dans l'expérience humaine du couple? Eh bien, tout d'abord, il y a une première évidence qu'il faut rappeler ici. Et c'est que cet amour de l'homme et de la femme, scellé par le sacrement de mariage, qui construit leur relation à l'image et à la ressemblance de Dieu et fait de leur amour comme le signe de l'amour du Christ pour son Église, en fait un vrai mystère, c'est pour chacun le don de soi-même, le don désintéressé de soi-même pour le bonheur de l'autre. C'est vraiment la construction de la personne qui ainsi s'épanouit dans cette don de soi-même, puisque la personne est fondamentalement don, mais aussi la caractéristique de cet amour conjugal, c'est qu'il se déploie, qu'il trouve sa plénitude dans ce que Dieu accorde à la plupart des couples, à savoir la fécondité des enfants. Et l'amour conjugal n'est pas seulement le face-à-face de l'amant et de l'amante, ou de l'aimé et de l'aimé et eux, mais le face-à-face des parents qui se donnent l'un à l'autre pour recevoir un don plus grand encore, à savoir l'enfant donné par Dieu et donné aux parents. Et dans ce don de soi-même, dans cette découverte de ce tiers qui est, comme nous le disons en français, le fruit de leur amour, ce tiers est à la fois n'est pas un intrus ni un gêneur, il est au contraire celui par qui cet don de soi-même se trouve comme dépassé en une générosité plus grande par la bonté de Dieu. Car il ne s'agit pas seulement de la reproduction, comme nous disons, parlant de la reproduction des espèces animales, mais du surgissement des œuvres de l'homme et de la femme, d'une personne nouvelle et autre, qui à son tour devra apprendre à se donner totalement et sans réserve pour s'accomplir, et pour qui les parents devront se donner pour qu'ils puissent croître, grandir, et exister et accomplir sa propre vocation. Ainsi l'amour se déploie dans cette fécondité nouvelle qu'est la descendance. Et ce n'est pas sans raison, dont on voit bien qu'elles sont profondément religieuses et liées au mystère de Dieu et de l'union à Dieu, que la promesse faite à Abraham est une promesse de fécondité innombrable. Ne pensons pas que c'est une manière d'affirmer l'existence d'une nation ou d'une famille ou d'une ethnie ou d'une lignée. Cette promesse d'une descendance innombrable, c'est à la fois comme l'anticipation de la promesse de la vie éternelle et surtout le déploiement dès le départ de ce que représente l'existence humaine qui est essentiellement faite de communion, et il ne peut y avoir de communion que dans la pluralité des personnes, et la promesse divine, déjà contenue dans le « croissez et multipliez-vous » et « soumettez la terre » que Dieu énonce à Adam et à Ève dans la première page que nous rapporte la Bible, cette annonce de la descendance et de la multitude décrit à l'avance cette communion d'amour où la multitude des personnes est cependant unie par cette source divine de l'amour qu'est Dieu lui-même, qui donne à chacun de se donner pour se recevoir et de recevoir de l'autre l'amour dont il est aimé. C'est cette plénitude de vie qui s'épanouit ainsi en cette générosité. Vous me direz, oui, d'accord. Très bien, très beau, magnifique. Enthousiasmant peut-être, mais c'est un rêve. Mais attention. Les enfants, prenons l'exemple des enfants. Et vous savez, vous vous rappelez de le point d'où nous étions partis. C'était l'épreuve de la fidélité et d'un engagement irrévocable dans le mariage qui semble si difficile à tenir en notre temps, étant donné ce que sont les mœurs. Et j'essayais de réfléchir avec vous à la manière dont on pouvait vivre l'épreuve des ruptures telles qu'elles sont vécues actuellement par beaucoup de couples dans les pays d'Occident et dans les pays développés, et en France en particulier, entre autres choses. Prenons le cas de l'amour des parents et des enfants. Bien, vous savez bien, parents, je m'adresse vraiment à vous, si vous aimez vraiment vos enfants, et comment ne les aimeriez-vous pas? Ce n'est pas parce que les enfants s'éloignent, vous semblent ingrats ou décevants, que vous cessez de les aimer. Bien plus, en raison même des épreuves qu'ils peuvent parfois vous infliger, de votre faute ou de leur faute, avec malice ou bien sans le faire exprès, parce qu'ils sont comme ils sont, ou bien parce qu'ils ont mal tourné, ou bien parce qu'ils n'ont pas fait ce que vous souhaitiez, ou bien parce qu'ils sont devenus tout à fait différents de ce que vous imaginiez. Bref, toutes ces difficultés innombrables d'un être nouveau qui apparaît et qui n'est pas conforme aux rêves de ses parents. C'est fatal, puisqu'il existe et qu'il est lui-même. Vous apprenez peu à peu à l'aimer d'une façon plus désintéressée encore, puisque vous apprenez à l'aimer en vous donnant à lui, pour lui-même et non pas seulement pour vous. Le désintéressement fait croître l'amour. Et bien plus, prenons les cas dramatiques, les enfants s'en vont, claquent la porte, sont ingrats, s'éloignent, est-ce que l'amour disparaît? Rappelez-vous dans l'évangile la parabole du père et des deux fils. Le père, dans cette parabole, vous savez, les deux fils, il y en a le plus jeune qui demande sa part de son héritage, le cadet, et qui s'en va au loin dans un pays qui dépense tout son bien avec des prostituées, puis qui revient parce qu'il est dans la misère, etc. Vous vous souvenez bien de cette parabole. Eh bien, l'amour du père n'a pas cessé. Et il est un autre passage de l'Écriture dont il faut se souvenir ici. Une femme cesserait-elle d'aimer l'enfant qu'elle a mis au monde? Pourrait-elle cesser de chérir le fils de ses entrailles? Même s'il s'en trouvait une, dit Dieu, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Ainsi, l'amour subsiste au moment même où il cesse d'être réciproque en apparence. Car l'amour, c'est précisément le don désintéressé de soi-même. On peut dire que l'amour des parents est peu ou prou, quasiment toujours, à un moment ou à un autre, parfois pour de longues durées et de façon irréversible, du moins à vue humaine, parfois comme une épreuve que les jeunes font subir à leurs parents dans l'adolescence ou dans la jeunesse ou bien dans une crise de la vie. C'est un amour éprouvé, un amour parfois, semble-t-il, unilatéralement renié, ou bien un amour crucifié, et pourtant ce n'est pas un amour que les parents peuvent dire disparu, anéanti. C'est un amour plus fort que sa propre négation par l'aimer. Ainsi, voilà un exemple où il n'apparaît pas absurde qu'il puisse y avoir un engagement irréversible, définitif, à aimer. Quand un homme et une femme sont ainsi devenus parents d'un enfant, ils savent bien qu'ils prennent, qu'ils ont souscrit comme un engagement issu de leur chair même et de leur acte, d'aimer jusqu'au bout ce petit qui leur est donné, quoi qu'il arrive. Et l'enfant lui-même, alors qu'il abuse peut-être de cet amour, sait bien qu'il doit pouvoir compter de façon irrévocable sur son père et sa mère. Et ceci nous semble normal. Si vous n'êtes pas prêt à le donner à vos enfants, souvenez-vous, c'est ce que vous escomptiez de vos propres parents. Et si par malheur, les parents y ont manqué, quelle amertume en vous et quel reproche penseriez-vous leur faire? On parle de mauvais père, de mauvaise mère. Ce langage veut dire quelque chose. Ça signifie qu'on est déçu par quelque chose qu'ils auraient dû donner, dont on espérait qu'ils l'auraient donné, et dont on sait qu'un jour ou l'autre, ils le donneront. Alors, vous le voyez, voilà une expérience dans l'amour filial et dans l'amour parental, où cette épreuve d'un amour qui demeure alors même qu'il est rompu en apparence, ou distancé, crucifié, qui subsiste quand même, irrévocablement. Eh bien, je pense que cette épreuve-là, elle est souvent vécue dans l'amour de l'homme et de la femme, et que de la même façon, c'est un engagement de ce genre et fondé sur les mêmes raisons qui nous permet de comprendre quelle est la réalité de cette transformation de l'amour, du désir, de la convenance mutuelle, bref, de ce qui fait qu'un garçon, une fille, jeune encore, décide de s'épouser, de se marier, de devenir mari et femme. Car le mariage, c'est précisément le passage des relations évanescentes et n'ayant pas d'autre consistance que le désir ou la disponibilité du moment à l'engagement effectif d'une liberté pour un projet qui dépasse chacun et qui pourtant les concerne ensemble. Voilà, la semaine prochaine.